RCF.
Vous êtes sur RCF et c'est l'heure des 18-19 en région. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonjour à tous, le 18-19 avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Alexis, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Alors le mercredi, c'est vrai qu'on retrouve nos chroniqueurs habituels et autour de nous, il y a toujours notre stagiaire qui nous présente la météo en général.
Effectivement, Marion qui est avec nous. Marion, bonsoir.
Bonsoir.
Avec toujours les tendances pas fofolles, comme on pourrait dire.
Pas fofolles.
Bon, on vous retrouvera tout à l'heure à l'intérieur du journal régional, dans lequel on reviendra aussi notamment sur la messe chrismale du diocèse de Reims et des Ardennes, qui était célébrée hier soir depuis la cathédrale. On entendra le témoignage de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui a vécu un grand moment de joie, mais aussi celui de Monseigneur Étienne Véteux, qui pour la première fois depuis son ordination il y a quelques mois, a renouvelé ses vœux, puisque vous le savez, on renouvelle les vœux d'ordination lorsque l'on est prêtre, lorsque l'on est évêque, à l'occasion de la messe chrismale. Jean-Pierre, ça sera aussi l'occasion en deuxième partie d'émission de réentendre l'homélie de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qu'il a prononcé à l'occasion de cette messe chrismale.
Et c'est l'occasion de rappeler que en ce moment, nos amis de RCF Lyon, du réseau national de RCF, sont présents au monastère de Saint-Thierry. À partir de demain, ils vont nous faire vivre en direct les principaux moments de la liturgie de ce monastère, avec ce qu'on appelle les vêpres, le sel, la cérémonie des laudes, etc., etc., etc. Et puis, bien entendu, la célébration de la scène de la Passion et de la veillée pascale et de la messe de Pâques. Tout ça, c'est un grand programme qu'on va voir. Et puis, nos chroniqueurs habituels, évidemment, du mercredi, il y a Robert Auverger. Robert Auverger, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre Benoît et bonsoir à tous.
Et puis, il y a Fernand Tavares, journaliste parlementaire. Je crois qu'il a un invité un peu spécial à notre micro ce soir. Il s'agit de Xavier Albertini, député de la Marne, qui réagira aux questions d'actualité qui d'ailleurs sont très nombreuses à l'Assemblée nationale. Robert Auverger, donc en un mot, le mot du jour avec vous, Robert.
Eh bien, c'est le mot révolte.
Alors avant de parler des diverses origines possibles des révoltes, quelle est l'origine du mot révolte ?
Eh bien, ce mot nous vient d'Italie. La racine voltare, qui signifie tourner, a donné rivoltare, qui à l'origine, avant de signifier se rebeller, signifier retourner la salade dans le saladier. Alors en français, on peut apparenter le mot à faire volte-face, à volute et évidemment à révolution.
Alors ce mot révolte, comment a-t-il évolué au cours de l'histoire ?
Au XVIe siècle, se révolter se disait à propos de la religion. Il y avait le retournement positif, c'est-à-dire la conversion, mot qui vient du latin vertere qui signifie tourner, et puis le mauvais retournement, la révolte.
Alors à cette époque, comment étaient ressenties les révoltes ?
Au XVIe et XVIIe siècle, à une époque d'autorité monarchique et de religion d'État, la révolte n'était pas vue d'un bon œil, mais pour les partisans du pouvoir et de l'ordre, ce n'était pas très inquiétant. C'était simplement un court moment de violence qu'il suffisait de réprimer pour que tout rentre dans l'ordre.
Ce qui explique, par exemple, la non-réaction immédiate de Louis XVI lors de la prise de la Bastille.
Mais en effet, oui, Louis XVI, qui n'avait pas pris conscience de la gravité de la situation, s'exclama, c'est bien connu, est-ce une révolte ? À quoi le duc de La Rochefoucauld aurait répondu, non, sire, c'est une révolution.
On a du mal à comprendre pourquoi, d'ailleurs, c'est assez intéressant, cette réponse de La Rochefoucauld n'a pas alarmé Louis XVI.
Mais tout simplement, si j'ose dire, parce que le mot révolution était alors un mot banal à l'époque pour désigner tout changement brusque mais passager.
Et pourtant, on connaît bien, vous connaissez bien l'histoire de France, elle est parsemée sinon de révolution, du moins de révolte. Alors on peut penser en particulier dans l'histoire ce qu'on appelait les jacqueries. Pourquoi d'ailleurs la dénomination jacquerie ?
Eh bien parce que les révoltes étaient celles des paysans, qu'on n'appelait pas encore les agriculteurs, qui étaient alors dénommés les Jacques ou Jacques Bonhomme.
Alors, quelles ont été les conséquences de ces jacqueries ? Il y en a de nombreuses dans l'histoire.
Oui. De juillet à août 1789, ces mouvements de révolte furent engendrés par une peur collective qu'on appela la Grande Peur. Ces jacqueries entraînent l'effondrement de l'autorité de l'Ancien Régime. Elles provoquent aussi un important mouvement d'émigration de la noblesse. Alors, en réponse immédiate à ces mouvements, les nouvelles autorités politiques décident l'abolition des privilèges.
Alors, on évoque les jacqueries de la Révolution, enfin de 1789. Ce n'étaient pas les premières de l'histoire, pas tout à fait.
Oh non, quatre siècles auparavant, en mai 1358, une centaine de paysans du Beauvaisis, aux yeux desquels la noblesse a lâchement fui devant les Anglais à Poitiers et veut maintenant leur extorquer de nouvelles taxes, ces paysans s'attaquent aux châteaux de leur région et tuent leurs habitants. Cette révolte s'étendra très vite à la paysannerie de tout le bassin parisien avant d'être impitoyablement réprimée.
Alors aujourd'hui, revenons en 2024. Qu'est-ce qu'on entend par révolte,
La révolte ou rébellion est un sentiment d'indignation et de réprobation face à une situation. Alors, lorsque ce sentiment entraîne un refus actif, voire violent, d'obéir à une autorité, on parle de révolte.
Une révolte d'ailleurs qui se manifeste par des comportements divers, plus ou moins violents d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Ces comportements peuvent aller du non-respect des normes sociales jusqu'à l'insurrection, en passant par la désobéissance, la grève ou les mutineries. Elle peut donc être individuelle ou collective, organisée ou non, mais elle peut aussi être passive ou active.
Alors comment peut-on justifier ces fameuses révoltes?
Oh là, c'est compliqué. Pour Voltaire, si quelque chose est révoltant, il est juste de se révolter. Dans « L'homme révolté », Albert Camus écrit « Cette folle générosité qui est celle de la révolte donne sans tarder sa force d'amour et refuse sans délai l'injustice. La révolte est le mouvement même de la vie. »
Mais concrètement, quelle est la raison, on peut dire, la raison essentielle de ces explosions de violence soudaines et soudain imprévues dans l'histoire?
Eh bien, un politiste américain qui s'appelle Barrington Moore explique que la stabilité des sociétés repose surtout sur un pacte social implicite, fait des contreparties concédées par les dominants aux dominés. Alors pour lui, plus que les inégalités économiques d'ailleurs, la rupture de ce pacte social par certaines fractions des élites entraîne chez les dominés un sentiment de ne pas être respecté, voire même d'être méprisé, les sentiments qui expliquent les révoltes.
Alors je sais que vous affectionnez particulièrement les citations. Alors pour terminer, on a envie de vous demander une ou deux citations, Robert.
Oui, elles sont simples. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme, je cite, « Le droit de résistance à l'oppression comme un des droits de l'homme avec la propriété, la sûreté et la liberté. » Quant à l'article 35 de la Déclaration de 1793, il nous dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
Merci Robert Auverger d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, si vous le voulez bien, on se retrouve la semaine prochaine. Mais on a envie de vous poser la question. Quel est le mot que vous allez nous présenter?
Eh bien, je pense que nous parlerons du mot solde.
Eh bien voilà, on parlera des soldes, enfin en tout cas du mot solde dans son intégralité. Merci Robert Auverger. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Et à bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h19 sur RCF, France Ardenne, RCF Cœur de Champagne. Jean-Pierre, vous l'avez dit en introduction de cette émission, il y a les habitués du mercredi. On vient de retrouver Robert Auverger. Pour prendre la suite, on retrouve Fernand Tavares, journaliste parlementaire, qui interroge Xavier Albertini, député Les Républicains de la Marne.
Merci Xavier Albertini d'être avec nous en direct. Bonjour. Sur RCF. Bonsoir. Je sais que vous venez de quitter l'Assemblée nationale pour rejoindre Reims. Alors vous êtes vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui et hier à l'Assemblée et aujourd'hui au Sénat et également à l'Assemblée, on a beaucoup parlé de ce déficit des finances publiques annoncé par le ministre de l'économie et des finances, monsieur Le Maire. Est-ce que vous trouvez que c'est catastrophique, c'est inquiétant? Et en particulier, il y a une question quand même qui a été soulevée par le ministre, c'est qu'il faut faire appel à tout le monde, y compris aux élus locaux, aux départements, aux villes et aux communes.
Alors, est-ce que c'est catastrophique? La réponse est non. Est-ce que c'est inquiétant? Bien évidemment. Au-delà de ça, j'ai eu l'occasion par ailleurs, outre d'avoir entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, d'avoir déjeuné avec lui hier, et il n'a pas évoqué forcément l'action à destination des collectivités locales et territoriales. La question est plus profonde que ça. La question est de bien cerner les problématiques qui sont liées à cette baisse de rentrée fiscale et ensuite de savoir comment on corrige l'ensemble de ces facteurs. Il faut savoir qu'il y a c'est une évidence, une répartition des finances publiques entre les collectivités locales et le budget de l'État. Pour autant, aujourd'hui, aucune piste n'a été mise en avant. Ce qui est important, c'est de poser la problématique et de savoir comment on résout ce déficit qui est à hauteur de 5,5%, 0,9 points supplémentaires de ce qui était prévu, plus de 12 milliards d'euros. Et donc, il va falloir trouver les voies et les moyens dans une logique de concertation et où l'ensemble des acteurs devra réfléchir et apporter sa pierre à l'édifice pour trouver des solutions pour que notre pays puisse sortir de cette situation.
Alors, un autre député a été notre invité sur RCF il y a quelques jours, c'est M. De Courson, vous connaissez bien, député de la Marne et grand spécialiste des finances, puisqu'il est à cette commission depuis des décennies. Lui estime qu'il faudrait d'urgence un projet de loi de finances rectificative. Est-ce que vous pensez que ça va trop vite ou que c'est utile ?
Alors, le problème de la loi de finances rectificative, comme à chaque fois, c'est pour corriger, pour mettre un patch sur une dimension budgétaire annuelle. Ça peut s'entendre d'un point de vue d'immédiateté. La réalité est un peu différente à mon sens. Ça fait 50 ans que les finances publiques de l'État, et en particulier du budget de l'État, sont déficitaires. Il faut, à mon avis, arrêter ce système de loi de finances rectificative en cours de mandat et en cours d'exercice. Il faut surtout se poser sur les bons diagnostics, et on est en train, en tout cas le gouvernement est en train de le faire, pour ensuite poser les bonnes évolutions de façon définitive. Et ce n'est pas en faisant une loi de finances rectificative pour mettre un patch que nous trouverons les solutions pérennes de la situation, si ce n'est à refaire la même chose dans le courant des années suivantes. Je rappelle que les lois de finances rectificatives ont un sens, en particulier lorsqu'il y a des changements de président de la République pour des inflexions de politique générale, mais pour autant, dans cette situation-là qui est très spécifique, cela ne m'apparaît pas comme quelque chose d'opportun.
Alors, toute autre chose, et qui concerne le monde agricole, dont on a beaucoup parlé, et qui concerne évidemment le département de la Marne, comme celui des Ardennes, de l'Aube et de la Haute-Marne, est-ce que vous pensez que ce qui a été annoncé et promis par le Premier ministre et le Président de la République, ça va assez vite? On a le sentiment que les uns et les autres disent qu'il y a du retard, notamment vis-à-vis de la PAC.
Alors, là encore, sur les annonces qui avaient été faites au moment des manifestations de début d'année, juste avant le Salon international de l'agriculture, les annonces faites par le Premier ministre, je vous rappelle qu'il y a de cela que quelques semaines, eh bien, il est important de constater qu'une loi d'orientation agricole est en cours de finalisation, en tout cas le projet, que notre collègue, mon collègue Éric Girardin, a été nommé rapporteur dans la commission des affaires économiques pour son groupe de cette loi d'orientation agricole, et que conformément à un plan de charge qui était prévu, cette loi sera examinée entre avril et mai, qui correspond à un délai raisonnable, me semble-t-il, par rapport aux orientations et aux besoins de l'ensemble des agriculteurs.
Alors, toute autre chose, Xavier Albertini, nous sommes à quelques jours des fêtes de Pâques. En ce moment, il y a une autre question qui préoccupe toute la France, c'est bien sûr les alertes attentats. Est-ce que vous pensez qu'on est en situation grave, gravissime? Parce que quand même, l'armée est saisie, les forces de l'ordre sont saisies, la sécurité doit être installée partout, et notamment dans les églises, ou à la sortie des églises, ou à l'entrée des églises à la veille des fêtes de Pâques, également dans d'autres établissements, les établissements scolaires. Certains ont déjà reçu des menaces, que tout cela est quand même assez inquiétant.
Alors c'est inquiétant, on revient dans une situation effectivement de plan vigipirate écarlate, en tout cas relevée. La situation internationale est ce qu'elle est avec l'attentat de Moscou. Il est clair que ce sont bien évidemment les églises qu'il faut protéger, les synagogues, même les mosquées. Et il est donc important également de vérifier les attaques, en tout cas cyber, que connaissent aujourd'hui un certain nombre de nos étudiants, collégiens, lycéens, qui ont des menaces directement sur leur téléphone et sur leur système informatique. Donc la France est dans une situation effectivement complexe. Et il faut la vigilance de chacun. Nous avons peut-être perdu les bons réflexes que nous avions malheureusement dû mettre en place après les attentats de 2015. Mais il est important de revenir à cette situation-là. Et je fais confiance à l'ensemble des forces de l'ordre, que ce soit nos policiers, nos gendarmes et évidemment les organisations de plan Vigipirate pour donc l'armée, pour pouvoir garantir la sécurité de nos concitoyens.
Merci Monsieur Albertini d'avoir été avec nous en direct sur RCF. Je sais que vous quittez Paris en ce moment pour rejoindre Reims. Et à très bientôt.
Au plaisir, à bientôt, au revoir.
Xavier Albertini qui était au micro de Fernand Tavares. Xavier Albertini, bien évidemment, Horizon, du parti Horizon. Il est même d'ailleurs le porte-parole du parti Horizon à l'Assemblée nationale. Xavier Albertini qui était au micro de Fernand Tavares, Jean-Pierre.
Et d'ailleurs, ce sera l'occasion sans doute, lors d'émissions le mercredi, avec Fernand, de donner souvent la parole à des élus de notre région afin de relocaliser les débats parlementaires avec des élus
de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il est 18h25.
Et dans quelques instants, on va aller à la rencontre d'un prêtre de notre diocèse de Reims et des Ardennes qui témoigne de comment il vit son carême.
Le 18-19 sur RCF.
Père Paul Nguyen, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous en direct pour nous dire ce que représente le carême pour vous. C'est la question que l'on pose à tous les prêtres, toutes les religieuses et religieux du diocèse de Reims et des Ardennes pendant ce carême. Qu'est-ce que cela signifie pour vous concrètement le carême, Père Paul Nguyen?
Le carême pour moi c'est tout simplement un temps de rencontre, un temps de joie, un temps dans lequel le Seigneur m'invite à me convertir à son amour.
Et comment vivez-vous ce temps fort?
Le temps fort avec l'espace missionnaire Reims Nord, nous proposons aux chrétiens de notre espace de suivre un thème autour de la bienveillance. Donc pendant ce temps de carême, chaque jour il y a un geste proposé, fait ensemble. Et puis une scène de prière proposée pour tous les chrétiens, prier les uns pour les autres. Et en même temps d'avoir un esprit de bienveillance pour pouvoir sauvegarder la planète. Et en même temps, on va prier pour les uns et les autres, surtout un esprit de charité envers les plus démunis, les pauvres, dans notre espace missionnaire, tout d'un repas partagé.
C'est important pour vous, Père Paul Nguyen, de vivre ce temps fort en communauté, j'allais dire avec vos paroissiens notamment qui vous rejoignent à l'église Saint-Thomas?
Exactement, parce qu'aujourd'hui, l'esprit communautaire est plus ou moins présent dans notre espace missionnaire, surtout Saint-Thomas, est devenu un lieu de rencontre et de repère. Et grâce à l'espace missionnaire, et puis Saint-Thomas est devenu maintenant un lieu de rencontre, nous allons organiser toutes les rencontres autour de l'église de Saint-Thomas, et surtout, sans oublier que les fraternités de proximité dans nos quartiers. Et moi-même, cette année, pendant le temps de carême, j'ai bloqué une matinée pour aller rencontrer des personnes avec le relais du quartier.
Ce temps du carême est souvent associé à un temps de privation, en tout cas pendant lequel on fait des efforts. Est-ce que vous-même, Père Paul Nguyen, vous faites des petites concessions pendant ce temps du carême?
Oui, il y a deux choses que je voudrais pointer pendant 40 jours-là. Tout d'abord, ce n'est pas la peine de dire qu'il faut priver du porc ou manger beaucoup de poissons, mais la prise de conscience qu'aujourd'hui, notre corps a besoin d'une vie spirituelle pour pouvoir éviter tous les problèmes au niveau de santé, mais en mettant la spiritualité, c'est-à-dire par la prière, écoute de la parole du Seigneur, nous permettre de trouver un équilibre pour notre vie au quotidien. C'est pourquoi les chrétiens de notre espace missionnaire, surtout les membres du CLA, ils se rendent compte de l'importance de les vivre ensemble.
En tout cas, un grand merci, Père Paul Nguyen, de nous avoir éclairé sur la façon dont vous vivez le carême dans l'espace missionnaire Reims-Nord et comment vous le vivez vous-même au titre de prêtre. Et on vous dit à très bientôt en vous souhaitant un bon carême.
Merci, et vous aussi.
Et c'est l'occasion d'annoncer quelques rendez-vous à nos auditeurs, déjà leur dire que les trois questions A de 7h40 avec les prêtres, la série s'arrête dès demain matin, puisqu'à partir de 7h40, il y aura des offices que vous retrouverez. Jean-Pierre Benoît va vous donner le programme dans quelques instants, parce que le père Thibaut de Rusquet était prévu pour ce jeudi, et le père Pierre de Curès pour ce vendredi matin. Alors au lieu de les retrouver à 7h40, vous les retrouverez ce jeudi et ce vendredi à 11h57, et demain à l'intérieur du magazine régional à partir de 18h10, bien évidemment. Jean-Pierre, j'annonce un autre programme, le matin, le vendredi matin, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, que l'on retrouve habituellement à 7h et à 8h. Exceptionnellement, on l'entendra simplement à 7h ce vendredi matin. Et puis, il y a également des offices que vous avez à nous annoncer.
Alors, justement, il faut rappeler pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le programme RCF, que le Triduum Pascal qui démarre demain, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et Pâques, c'est l'occasion pour l'équipe de RCF National d'être présente dès ce matin, déjà aujourd'hui, au monastère de Saint-Thierry. Et nous allons vivre l'office des Laudes à 7h45. Nous aurons des émissions qui sont les bénédictines de Saint-Thierry demain matin avec Sœur Fabienne qui est la prieure du monastère. On aura une émission avec Patrick Demuy à 9h. Patrick Demuy qui sera d'ailleurs à 7h et à 7h, notre invité le matin sur une autre émission. Et puis surtout, il y aura la célébration de la scène, ce sera à 20h15. Et puis bien entendu, demain, on reviendra sur le programme du Vendredi Saint. Il faut savoir que toute la semaine, il y a des émissions, par exemple, Halte Spirituelle, dont l'invité de toute la semaine est Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. C'est toute l'équipe avec Véronique Alzieu et Madeleine Vatel, et puis toute l'équipe technique de Bertrand Lachana. Il est En ce qui nous concerne, 18h30, l'occasion de vivre en direct les infos régionales avec Alexis Claudretz qui est avec nous.
Avec les titres de ce mercredi 27 mars, retour sur la messe chrismale du diocèse de Reims et des Ardennes. Un temps fort pour tous les diocésains, mais aussi pour l'archevêque Mgr Éric de Moulin-Beaufort et son auxiliaire Mgr Étienne Véteux. Lancé depuis novembre 2023, le bus France Service sillonne le département de la Marne. 27 communes sont desservies pour un bassin de vie de 16 000 habitants. Premier bilan.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
La messe chrismale de notre diocèse était célébrée hier soir à Langres, à Troyes, à Châlons et bien évidemment à Reims. En la cathédrale Notre-Dame, c'est l'archevêque Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui a présidé la célébration avec beaucoup de joie.
C'est un moment très dense, très intense de notre vie liturgique. Et pour ma part, de fait, je l'attends avec une certaine impatience. Non seulement ça marque l'entrée dans la Semaine Sainte, mais elle resserre aussi nos liens entre prêtres et diacres, et puis avec tous les fidèles que je suis toujours très ému d'y voir. Ce que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que l'Église, c'est fondamentalement la réponse au Christ qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Voilà, quelqu'un s'est dressé dans l'humanité sur qui l'Esprit du Seigneur est là, et nous, chrétiens, eh bien, nous accueillons sa présentation en quelque sorte, et de l'entendre nous dire qu'il est envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, eh bien, ça nous réveille, ça nous fait relever la tête, et ça nous donne des énergies nouvelles pour vivre et pour agir.
L'homélie de Mgr Éric de Moulin-Beaufort prononcée hier soir sera retrouvée en intégralité dans quelques minutes dans ce magazine régional. Cette messe chrismale résonnait de manière particulière pour l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Étienne Véteux, qui vivait pour la première fois cette célébration avec le titre d'évêque et qui a eu beaucoup d'émotions au moment de renouveler ses vœux avec ses frères prêtres.
C'est très émouvant. Dans l'ordination épiscopale, il y a un moment où il est dit que l'évêque est le grand prêtre. Donc, c'est vrai que de consacrer les huiles saintes avec l'archevêque et avec tous les prêtres qui étaient là, ça met ça en pratique, ça met ça très concrètement. Et puis, c'est un moment où tout le diocèse est rassemblé. Et pour moi, que ça fait 6 mois que je suis dans ce diocèse. Donc, c'était un moment où je reconnaissais les visages, où j'avais vraiment l'impression à la fois d'être porté par tout le monde et puis de pouvoir porter tout le monde dans la prière. Pour les prêtres, c'est vraiment un moment très fort et de le faire tous ensemble. Et on sent à ce moment-là qu'on s'abandonne à la grâce de Dieu. On dit que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est vraiment par la force de l'Esprit-Saint. Et puis du coup, pour moi aussi, c'était ma première fois en tant qu'évêque. À ce moment-là, on se rend compte qu'il y a vraiment un don de Dieu et un appel.
Mgr Étienne Véteux qui souligne à son tour les messages qu'il souhaitait faire passer à cette occasion et pour toute cette Semaine Sainte.
Premièrement, un message d'unité. On sent que le diocèse est rassemblé ce soir et qu'il reste et dans l'unité, il approfondit cette unité. Un message aussi aux diacres qui étaient là, puisque cette année, on fête les 60 ans du rétablissement du diacre comme ordre permanent et stable. Et c'est pour ça que ce soir, les diacres avaient un rôle assez particulier, étaient mis en honneur et avaient eux aussi renouvelé leurs vœux ou leur engagement en présentant une lettre à l'archevêque. Et puisque c'est la Semaine Sainte, je dirais peut-être le plus important, c'est que mystérieusement, le Christ nous sauve, mystérieusement, le Christ agit dans notre vie et c'est ce que nous fêtons cette semaine. Et ceux qui auraient besoin de lui déposer un fardeau, ceux qui auraient besoin d'ouvrir leur cœur à sa présence, c'est vraiment le moment de le faire.
Des propos recueillis au micro de RCF France Ardennes. Pour rappel, dès demain, toute l'équipe du réseau national de RCF sera installée au monastère des Sœurs Bénédictines de Saint-Thierry pour vous faire vivre le Triduum Pascal depuis ce lieu magnifique du diocèse de Reims et des Ardennes. Pour compenser le manque de magistrats dans les Ardennes, la chancellerie a accordé aux juges qui s'installeront dans la juridiction du département les mêmes avantages que les dom-tomes en termes de facilité de carrière, précisent nos confrères de l'Ardennais. Actuellement, la pénurie de magistrats met le tribunal de Charleville Mézières dans le rouge. Et puis, vous le savez, il y a quelques jours, il y a un morceau de la flèche qui est tombé de la basilique de Charleville-Mézières. Une nacelle de 70 mètres de haut pour un chantier de haut vol a été installée. Les lieux ont été sécurisés. Des travaux sont à prévoir. La nature n'a pas encore été tout à fait spécifiée, mais on sait qu'une entreprise spécialisée se chargera de déposer les ornements en plomb ou en zinc, possiblement fragilisés, renforcera le balcon en pierre situé juste sous le toit en ardoise de la flèche et installera un filet de protection en attendant d'autres manœuvres dans les mois à venir. Vendredi dernier, à Auve, entre Châlons-en-Champagne et Sainte-Menou, s'est tenu un point d'étape du bus France Service, lancé en novembre 2023 et labellisé depuis peu. Jean-Marc Rose, président du conseil départemental de la Marne.
On a profité d'une labellisation de l'État qui démontre qu'on est parfaitement en règle pour assurer ce type de service, pour faire un point d'étape. Le bus France Service complète les 26 points de France Service qu'il y a dans le département. On a choisi un certain nombre de communes qui n'étaient pas desservies. Pour le moment, ils sont assez fréquentés, ces bus France Service. On répond à un tas de questions qui, ça peut être des questions sur des papiers, sur des orientations. Et on fera un point d'ici 5 à 6 mois pour mesurer un petit peu l'ampleur des services qu'on a pu rendre et éventuellement corriger peut-être géographiquement le déplacement de ce bus France Service. D'ailleurs, à ce titre-là, j'en profite pour faire un appel à toutes les collectivités qui d'ailleurs nous confirment leur intérêt. Il y aura peut-être un ajustement donc de ce bus qui ira envers d'autres collectivités plutôt que celles qu'on avait choisies au départ.
La population concernée voit ce bus France Service d'un œil positif, un bon retour de la part des Marnais donc. Jean-Marc Rose précise qu'un premier bilan sera réalisé d'ici l'été 2024 afin d'améliorer au mieux ce dispositif.
On sait d'ores et déjà que la plupart de ceux qui ont visité les bus par des retours et des échanges qu'on a pu avoir avec nos agents sont plutôt positifs, mais je tiens à le mesurer qualitativement. Donc il y aura un questionnaire qui va être mis en place dès maintenant, qui sera assuré jusque la période où on va revoir le positionnement de ce bus éventuellement. Là où on voit, c'est quand même des territoires qui sont très éloignés, qui ne sont pas desservis forcément en transport en commun. Donc c'est le but, c'est d'assurer ce service auprès de tous nos administrés qui doivent en avoir les moyens grâce au bus France Service.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Pour un budget de 250 000 euros, ce dispositif est déployé sur le territoire par le département de la Marne en lien avec l'État qui participe aux frais de fonctionnement des structures France Service. Du sport, des clubs champardonnais jouaient hier soir et que de bonnes nouvelles. En basket, la 26e journée de Pro B a souri au Champagne Basket, vainqueur de l'Alliance Sport Alsace 73-70. Une victoire qui permet à l'Alliance champenoise de dépasser leur adversaire du soir au classement et de remonter à la 9e place à une victoire seulement de la course au play-off d'ici la fin de saison régulière, ce qui serait un mini-miracle vu l'entame de saison du Champagne Basket. En volley, très bonne nouvelle également, le leader du championnat lors de la saison régulière, Chaumont, a pris le meilleur face à Paris qui avait terminé 8e. C'était lors du quart de finale aller hier soir, donc succès 3-7-1. La deuxième manche est prévu le 3 avril dans une semaine. 18h38, Marion Yarnard est avec nous ce soir et lorsque l'on fait appel à ses services en fin de journal, c'est pour la page météo. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
Quel temps en Champagne-Ardenne pour ce jeudi ?
Pour demain, jeudi 28 mars, un temps plutôt nuageux et frais par rapport à celui de la semaine dernière. 8 degrés dans la matinée avec de gros nuages pour tout le monde, sauf pour les Ardennes qui auront des averses. Romilly-sur-Seine, dans l'aube, aura du soleil. Passons à l'après-midi, et là il n'y a pas de débat, il y aura des nuages pour tout le monde dans toute la région. En début de soirée, la Marne ainsi que Charleville-Mézières et Rethel dans les Ardennes auront des éclaircies. Bonne fête en avance à toutes les Gontranes et les Gontrans. Passez une excellente soirée.
Merci Marion, on se joint à vous pour souhaiter évidemment, comme vous l'avez dit, en avance une très bonne fête à toutes les Gontranes, à tous les Gontrans. On vous retrouve demain avec de nouvelles tendances météo et un magazine régional toujours axé autour de l'actualité de nos diocèses en cette semaine sainte. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne-Ardenne, continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Il est 18h39, on a évoqué beaucoup dans ce journal, et c'est bien normal puisque c'était l'événement que nous avons vécu hier à la cathédrale, la messe chrismale. Alexis, on va poursuivre justement pour celles et ceux qui n'ont pas forcément suivi cette messe avec un témoignage important.
Effectivement, alors c'est vrai que la messe chrismale, Jean-Pierre, elle est célébrée dans tous les diocèses, pour nos auditeurs qui nous écoutent en région. C'était le cas dans le diocèse de Langres, on l'a dit, dans le diocèse de Troyes, dans le diocèse de Châlons, bien évidemment, mais aussi dans le diocèse de Reims, comme vous venez de le rappeler. Et ce témoignage important n'est autre que l'homélie prononcée par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, depuis la cathédrale Notre-Dame de Reims, c'était hier soir.
Qu'est-ce que l'Église, frères et sœurs ? qu'est-ce que l'Église ? Cette réalité sans laquelle nous n'imaginons pas être chrétiens et qui pourtant parfois nous pèse ou nous étonne, nous fatigue, voire nous dégoûte. Cette réalité qui tout à la fois nous tient unis à Jésus le Seigneur et nous en tient ou en tient d'autres écartés. Elle est, nous le savons bien, le peuple que nous formons, de sorte qu'en la désignant, que ce soit pour l'honorer ou pour la mépriser, nous nous désignons nous-mêmes. Et elle est aussi beaucoup plus que la somme de nous tous. Elle est une réalité voulue par Dieu dès le commencement de la création, une longue tradition qui nous porte, qui nous engendre, qui nous fortifie. Elle est aussi l'espérance de la vie éternelle. Quand nous l'évoquons dans notre pays, nous pensons à une vieille dame fatiguée, aux forces diminuées, et pourtant nous la savons faite des richesses de tous les peuples et de l'aventure spirituelle de l'humanité entière. Elle a été puissante chez nous, elle nous semble ne plus l'être. Elle était pour beaucoup le cadre inévitable de la vie, en ce qu'elle a de plus important, en ce qu'elle unit le plus intime et le plus collectif, et elle est devenue une réalité à option à laquelle chacune ou chacun se rattache selon la mesure qu'il veut bien se donner ou dont beaucoup se détachent d'un coup ou par morceaux sans qu'elle puisse les retenir. Et elle est pourtant ce vers quoi tendent les catéchumènes qui expriment le désir de lui appartenir, le désir d'en faire leur maison. Elle est aussi une réalité qui ne cesse d'interroger ceux qui la croisent. Ce soir, frères et sœurs, réunis en notre cathédrale pour la messe dite messe chrismale, nous expérimentons que nous sommes l'Église ou que nous sommes d'Église. Les prêtres et les diacres du diocèse sont rassemblés presque au complet, ce qui nous permet de penser à ceux qui sont absents, malades ou empêchés. Les religieuses et les religieux, les personnes consacrées de notre diocèse, sont là, au moins à travers des représentantes et des représentants. Les différents espaces missionnaires qui organisent notre territoire et les paroisses sont présents, au moins à travers les prêtres, les diacres et quelques laïcs, membres ou non des équipes pastorales, des conseils d'animation missionnaire ou des conseils locaux d'animation. Les baptisés, les confirmés sont là aussi, le cœur gonflé, et sans doute êtes-vous là, catéchumènes qui seraient baptisés dans la nuit de Pâques ou qui vous préparez pour l'être l'an prochain, peut-être surpris de ce que vous voyez et entendez, attentifs aux gestes qui vont ponctuer cette célébration. Lorsque l'Église locale est rassemblée autour de l'évêque, prêtres, diacres, religieuses et religieux, personnes consacrées, laïcs baptisés, confirmés, mariés ou non, catéchumènes, alors l'Église du Christ se donne à voir et à sentir comme jamais. Nous vivons cela ce soir. Or, que nous est-il donné d'entendre ? Une promesse. Une annonce, non pas une constitution, un règlement, un code de loi, une charte, non pas un document qui constitue un peuple, une collectivité, pas même un programme de travail commun, une stratégie à suivre ensemble. Une personne se présente, une personne qui n'est aucun de nous, et grâce à qui et pour qui et par qui nous sommes là. Une personne qui est en elle-même une bonne nouvelle, un évangile. Nous l'avons entendu s'exprimer deux fois et je veux le faire entendre une troisième fois parce que nous ne nous lassons pas de l'entendre se présenter à nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit cette personne, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. et nous avons chanté pour acclamer l'Évangile, « Heureux qui entend la parole de Dieu ». Quelqu'un s'est dressé au milieu de l'humanité, quelqu'un a parlé pour oser dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et l'Église, c'est l'ensemble de celles et de ceux qui entendent cette présentation avec joie, l'ensemble de celles et de ceux qui vibrent à cette parole, non pas d'abord une institution qui nous en sert de tous côtés et nous porte comme des enfants, mais le rassemblement de ceux et de celles en qui cette parole de présentation suscite de la joie, de l'espérance, à qui cette parole fait relever la tête et redonne ou donne davantage goût de vivre, entrain à agir, désir de construire, non pas d'abord une structure, mais un frémissement, un tressaillement, pour reprendre le mot du pape François à Marseille à la fin du mois de septembre. À qui s'adresse cette parole? À qui est-elle destinée? Cela est dit clairement, aux pauvres, aux captifs, aux aveugles, aux opprimés. Frères et sœurs, l'Église n'est pas le rassemblement de ceux et celles qui pensent bien, elle n'est pas le club de ceux et de celles qui assument la tradition de leur pays, la longue histoire des siècles, elle est avant tout un rassemblement de pauvres qui ont reçu une bonne nouvelle, de captifs qui ont goûté à quelque chose qui ressemble à une libération, d'aveugles qui ont découvert et continuent à découvrir ce que c'est que voir, d'opprimés qui expérimentent la liberté. Mieux encore, si nous écoutons maintenant le livre de l'Apocalypse, elle est composée de pécheurs délivrés de leurs péchés. Disons-le autrement, ce n'est pas en tant que nous sommes riches et bien nourris et bien instruits et intelligents, ni en tant que nous faisons le bien et que nous méritons l'estime de tous, que nous sommes l'Église ou que nous sommes d'Église, mais en tant que la proclamation de lui-même que Jésus fait, et donc sa parole et son action et sa présence dévoilent en nous une pauvreté dont nous nous réjouissons qu'il nous tire ou à laquelle il donne un sens, une captivité dont il nous fait sortir, une cécité que sa lumière corrige, une dépendance dont nous apprenons à nous débarrasser pour dépendre de lui seulement. Ce n'est pas en tant que nous sommes des justes, des gens bien ou des gens de bien que nous sommes d'Église, mais en tant que nous consentons à être délivrés de nos péchés par son sang à lui, et cela veut dire que nous acceptons d'être des pécheurs. Que vaut cet ensemble que nous formons? Que pèse ce peuple que nous constituons? Un drôle de ramassis, même à l'échelle du monde, une étrange caravane de pèlerins trop différents les uns des autres pour aller au terme de leur route, diffractés par trop d'intérêts ou d'attentes divergences. Qu'est-ce que tout cela face au pouvoir concentré des États, face au prestige de la culture et du commerce qui sont aujourd'hui intimement liés, face aux puissances économiques dont les fatalités semblent mener le monde? Bien peu de choses, et nous l'éprouvons tous les jours dans notre monde sécularisé. Qu'est-ce que cela face aux agitations de la nature et à la capacité des êtres humains de s'entretuer? Peu de choses, presque rien. Et pourtant non, car c'est la force de celui qui a passé par la mort et qui a surgi dans la résurrection. C'est la puissance du premier-né des morts, du prince des rois de la terre, qui nous tire les uns et les autres de nos médiocrités, de nos esclavages, de nos déterminations, et qui nous établit, nous l'avons entendu, comme un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. C'est l'Esprit, l'Esprit Saint, qu'il a gagné par sa passion et sa résurrection la puissance d'insérer dans nos libertés les plus profondes, qui fait que pauvres, nous pouvons enrichir les autres, que captifs, nous trouvons la liberté de choisir un meilleur que beaucoup renoncent à viser, qu'aveugles, nous voyons la beauté et la bonté du cosmos et des autres qui nous entourent, qu'opprimés, nous trouvons la force de donner un peu ou beaucoup de nous-mêmes à qui le demande. J'ai noté cette semaine dans un journal une citation éclairante d'un auteur relativement connu, Zygmunt Bauman. Je cite « Il s'agit de faire du monde dans lequel nous devons vivre un monde meilleur qu'il n'était ou qu'il n'est. Et lorsque cela s'avère impossible, alors il s'agit au moins de nous améliorer au sein de ce monde. » Ce qu'il commentait encore, « Nous ne quitterons pas le monde en le laissant aller comme il va, à la condition de ne pas nous aller, de ne pas aller comme nous allons. » Il n'était pas un théologien, mais un sociologue. Il n'était pas chrétien, mais juif, de ce peuple qui a longtemps médité la prophétie d'Isaïe en son chapitre 61. Et nous, chrétiens, nous osons croire que Jésus, le Christ, le Messie, loin d'Israël, celui qui a reçu l'onction pour toutes les nations, rend vrai ce qui est exprimé ainsi. En lui, Jésus, nous puisons la force, de lui, nous recevons la force de nous transformer en allant vers le meilleur et d'espérer que l'histoire de l'humanité va vers un meilleur encore. Les huiles que maintenant nous allons bénir et consacrer au milieu de vous et pour vous signifient les dons formidables du Seigneur Jésus. L'huile des malades annonce et promet que même dans la faiblesse du corps et de l'âme, nous pourrons faire de nos vies une offrande agréable à Dieu en faisant passer la foi, l'espérance et la charité en notre état de malade même. L'huile des catéchumènes annonce et promet que nous pourrons nous dégager du péché et de ses habitudes et trouver la liberté de choisir le vrai. Le Saint-Crème, lui, annonce et promet que notre intelligence, notre volonté, notre mémoire ne sont pas seulement là pour nous permettre de survivre ici-bas le moins mal possible, mais pour voir et servir et choisir la gloire de Dieu. Ce que nous faisons de ces dons que nous recevons peut paraître peu de choses aux yeux du monde. Chaque acte, pourtant, est un fruit du Seigneur descendu dans la mort et tiré par le Père, vivant et vainqueur. Tous ne savent pas le voir, mais heureux ceux et celles qui le reconnaissent. L'huile, nous le savons, assouplit les muscles et fluidifie les articulations, même les plus mécaniques. Elle rend efficaces les rouages. Nous ne sommes pas l'Église de Jésus lorsque nous nous durcissons sur ce que nous pensons être, ni lorsque nous nous heurtons les uns contre les autres. Nous sommes son Église lorsque nous nous accordons avec souplesse, lorsque nous nous faisons de la place les uns aux autres, lorsque nous nous aidons à progresser, lorsque nous nous les encourageons à répondre à l'appel du Seigneur à la sainteté lorsque nous laissons la charité passer en nous. C'est pour cela, frères et sœurs, que je suis ici au milieu de vous, envoyé après beaucoup d'autres dans l'élan de l'envoi des apôtres par Jésus. C'est pour cela que je me tiens là devant l'autel avec Monseigneur Véteux et avec les prêtres du diocèse, mes collaborateurs, pour vous servir. Dans un instant, avec Monseigneur Véteux et moi, nous allons tous ensemble étendre les mains pour consacrer le Saint-Crème, pour que la force du Christ mort et ressuscité, écrasé dans le pressoir de la Passion et ressuscité d'entre les morts, vous rejoigne, non pas depuis le temps lointain de ces années de Palestine, mais aujourd'hui, depuis la résurrection où il est à jamais, pour que aujourd'hui sa parole vous atteigne, qu'aujourd'hui l'Esprit qui reposait sur lui pénètre votre esprit, pour qu'aujourd'hui, de pauvres, vous soyez riches de la richesse de Dieu, de captifs, vous soyez libres dans l'Esprit de Dieu, d'aveugles, vous soyez éclairés par la lumière de Dieu, d'opprimés, vous deveniez libres de la liberté de Dieu, qui veut la vie et la joie et la paix, de raidi ou de raide, vous deveniez souple et engageant. C'est pourquoi aussi il y a au milieu de vous les diacres. Ils n'étendront pas les mains, ils ne se joindront pas à la prière que nous allons faire pour vous et pour eux, mais ils me rappellent et ils nous rappellent à tous que l'Église n'est pas achevée tant que les pauvres, les captifs, les aveugles, les opprimés n'ont pas reçu la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Ils nous rappellent que l'Église ne peut être quitte de sa mission tant que tous ceux pour qui elle est faite n'y ont pas trouvé leur place, ne s'y sentent pas chez eux, et que nous tous, qui sommes dans l'Église et qui sommes l'Église en un sens, nous ne pouvons jouir pleinement des biens qui nous sont donnés tant qu'il reste des êtres humains empêchés d'y avoir part par la maladie, l'emprisonnement, la pauvreté ou la précarité, mais surtout par le mépris que nous pourrions avoir pour eux ou par la peur qu'ils pourraient nous inspirer ou que nous pourrions leur inspirer. En cette année 2024, je l'ai dit en commençant cette messe, l'Église catholique célèbre la restauration du diaconat comme un degré stable et permanent du sacrement de l'ordre. Je veux dire ce soir ma grande gratitude aux diacres d'hier et d'aujourd'hui, aux quelques-uns déjà décédés et à leurs épouses dont certaines vivent encore parmi nous, et puis aux diacres qui se tiennent ici, accompagnés chacun de son épouse, et à ceux qui n'ont pu venir. Je veux leur dire mon immense gratitude. Je les confie à votre prière, et tout spécialement à la prière des religieux et des religieuses, moniales ou apostoliques, vierges consacrées et laïques consacrées de notre diocèse. Je vous confie à tous les deux candidats au diaconat qui m'ont écrit leur lettre de demande et à qui je vais répondre en ces jours. Ils seront ordonnés le 23 juin prochain dans notre cathédrale. Lors de l'assemblée plénière à Lourdes, la semaine dernière, il a été fortement rappelé aux évêques que la restauration du diaconat n'avait pas été voulue pour suppléer un quelconque manque de prêtres, mais pour rendre visible l'extension du ministère épiscopal, qui ne se réalise pas entièrement par la célébration des sacrements et la prédication, mais qui doit sans cesse garder au cœur celles et ceux qui sont loin du centre de l'Église et qu'il faut aider à le rejoindre, ce centre, et qu'il faut rendre présent au cœur même de l'Église. Ce cœur, nous allons le célébrer tout à l'heure, c'est l'acte eucharistique du Seigneur Jésus. Qu'est-ce donc que l'Église, frères et sœurs? C'est nous, et c'est beaucoup plus que nous, c'est nous tous en tant que nous sommes transformés par l'Esprit Saint de Dieu, c'est tout ce que cette cathédrale, en sa splendeur, évoque et promet. Croyons-le, ce soir et demain, aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que nous venons d'entendre. Amen.
Et vous venez d'entendre ou de réentendre l'homélie de la messe chrismale prononcée par Mgr Éric de Moulin-Beaufort hier soir, mardi donc, en la cathédrale Notre-Dame de Reims. Vous retrouverez d'ailleurs l'homélie de Mgr Yves Patenôtre qui a célébré la messe chrismale dans le diocèse de Châlons. Ça sera vendredi soir, toujours dans le magazine régional, des magazines en région qui vont être axés bien évidemment autour de programmes spirituels et diocésains pour vous accompagner pendant cette semaine sainte et en particulier pendant le Triduum Pascal, tout comme le fait le réseau national de RCF depuis le monastère des Bénédictines de Saint-Thierry avec plusieurs émissions spéciales que vous allez retrouver dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Mgr Éric de Moulin-Beaufort, vous le retrouverez d'ici quelques minutes sur l'antenne de RCF en Sardaigne et en DAB+, puisqu'à 19h12, c'est lui qui animera les méditations. Voilà pour les prochains rendez-vous que l'on peut vous donner. Et puis bien évidemment, demain, 18h10, le magazine en région avec notamment l'historien Patrick Demuy, l'halte spirituelle de Mgr Étienne Véteux, les rencontres avec le père Baptiste Bienvenu qui nous parlera d'un pèlerinage Saint-Lié de Mont pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Voilà parmi quelques-uns des rendez-vous que l'on pouvait vous donner. Dans quelques instants, l'information nationale prend le relais et puis les rendez-vous avec vos rédactions locales, c'est dès 7h du matin sur RCF Cœur de Champagne, sur RCF Reims-Ardennes. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Un grand merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde.